Chers auditeurs de Radio Courtoisie, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette 20e émission consacrée à la nature, à l'écologie, au monde agricole et au patrimoine intitulé « Les pâturages du ciel ». Ce doux nom du pâturage du ciel, vous le savez maintenant, rend hommage au merveilleux recueil de nouvelles de l'écrivain américain John Steinbeck. Dans une vallée de Californie où le ciel et la terre rivalisent de beauté, au rythme rassurant des saisons, des fermiers prospèrent et d'autres fermiers se ruinent et se déchirent. Au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux colons, la nature recule, dévorée par leur rapacité. Certains la protègent, d'autres la maltraitent, et cette émission a pour ambition, chaque mois, de vous conter un peu de cet accouplement aux allures de combat entre l'homme et la nature. Et pour m'accompagner ce soir d'avril, j'ai le plaisir de reformer l'équipe de ma toute première émission, donc moment nostalgie. J'ai donc la joie d'accueillir Nicolas De Groot, que nous n'avons pas revu depuis 2 ans, c'est un grand plaisir. Enfin, nous nous sommes revus, mais pas dans le cadre de cette émission. Nicolas De Groot, vous êtes docteur en philosophie, vous êtes auteur. Quels ouvrages vous avez déjà publiés?
J'ai publié un livre sur Pascal. C'est de la philosophie qui n'a rien à voir avec l'écologie.
Oui, mais ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que ça a vraiment rien à voir avec l'écologie?
Rien à voir.
Rien à voir. J'ai essayé. Hein. Et puis, vous êtes enseignant à Paris. Et vous avez un sujet de prédilection dont on va discuter tout à l'heure. C'est tout de même la question du libéralisme, de la crise du libéralisme, de la crise du capitalisme. Donc, ce sera le thème principal de cette émission. Et puis, l'autre pilier de cette émission, enfin, le pilier de cette émission, plus exactement, parce que lui est beaucoup plus régulier, Tanguy Devienne, vous êtes le fondateur d'une agence de communication Ad Vitam et du cabinet d'architectes Dusselier Devienne. Vous êtes un amoureux, un protecteur du patrimoine et vous êtes très intéressé par la low-tech, c'est-à-dire l'énergie basse technologie.
La basse technologie, effectivement. Voilà. C'est pas forcément d'ailleurs l'énergie, liée
pas
à l'énergie.
Pas forcément l'énergie, très bien. Vous sortez d'une campagne.
Ah oui, déjà. Alors j'embraye directement.
Exactement.
Donc, merci déjà pour cette invitation et de me donner la parole sur effectivement un problème très local, Grizzly Swine pour être exact, où nous avons eu droit à une élection, ou plutôt une campagne électorale particulièrement disputée puisqu'il y avait 4 listes. Avec un panel, comme tout le monde peut s'en douter, qui était assez peu politisé en réalité puisqu'il n'y avait qu'une liste RN. D'ailleurs, j'y reviendrai parce que la liste RN a été malheureusement le fruit de notre échec, puisque nous sommes arrivés au premier tour avec un score tout à fait étonnant, qui nous a évidemment maintenus au deuxième tour avec des possibilités d'alliance et qui n'ont malheureusement pas eu lieu avec la liste RN et même l'autre liste, ce que j'aurais souhaité, mais c'est vrai que c'était assez déroutant. L'écologie a été complètement soustraite, en réalité.
Sauf dans votre programme, justement.
Alors
c'est pour ça que je vous interrogeais là-dessus, c'est que vous êtes un des rares candidats à droite que je connaisse qui a fait figurer la question de la protection de la nature, des charges sauvages, des plantations.
C'est vrai.
Il me semble que c'est plutôt rare.
Oui, alors c'est vrai qu'à l'échelle locale, j'ai vraiment. D'abord, j'avais une équipe qui était vraiment super parce que très à la fois diversifiée et franchement, ça a été la source de mon énergie. Et effectivement, très très axé programme local. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne finalement pas que émergent des listes qui soient apolitiques et non pas celles qui ont véritablement une étiquette, puisque dans un village comme Grizzly Swine, on a plus de 50% des votes en faveur du RN dans une élection nationale, alors que là, il s'est retrouvé à 19% au premier tour, ce qui a été d'ailleurs, forcément une très grosse déception pour lui, et ce qui, à mon avis, a contribué à faire que notre alliance au deuxième tour n'ait pas eu lieu, malheureusement. Mais bon, je garde bon espoir quand même que le rationnel se réinstaure, parce que là où nous avons droit aujourd'hui à l'écume de cette élection, puisqu'il y a des plaintes à mon encontre, vous imaginez, qui me font trembler de peur, et je pense que je vais finir à Fleury-Mérogis dans moins de 15 jours.
Non, mais une vraie élection française, quoi.
Une vraie élection française. Alors moi, de mon côté, je dépose plainte malgré tout pour diffamation.
Ah, voilà, on espérait.
Ah oui, non, parce que là, c'est une vraie diffamation. On me fait passer pour misogyne, vous qui me connaissez un peu,
non.
Tout de même.
Vous
mesurez l'aberration. Et même d'agression verbale. Alors je me dis, bon, si je peux avoir un discours engagé, je ne m'adonne pas quand même à l'agression verbale, soyons sérieux. Mais évidemment, dans le cadre d'une élection surtout locale, ce qui m'a beaucoup, d'ailleurs, pas surpris, mais je n'ai pas mesuré à quel point les réseaux sociaux étaient devenus absolument envahissants. Au point de créer une campagne parallèle quasiment et de vous kidnapper, de vous mettre en demeure de répondre sur des sujets qui finalement deviennent complètement annexes ou des sujets polémiques à travers de simples propositions. Par exemple, j'avais parlé d'un dîner en blanc parce que au début de cette campagne, je m'étais rendu compte, ce qui m'indignait, c'était la transformation du village. C'est-à-dire que la zone...
Vous voulez que, que ce village reste un village et ne
Exactement.
Devienne pas une ville.
Mais je me suis rendu compte qu'en fait, le paramètre sociologique était au moins aussi important que celui de la silhouette du village, puisque ces villages en zone périurbaine eh bien, ont tendance à devenir de plus en plus des silhouettes périurbaines. Et en fait, l'esprit village ne peut pas être accompagné par aussi une silhouette de village. Donc, de voir le patrimoine local qui souvent est soustrait sous des prétextes parce que c'est simplement champêtre, parce que c'est pittoresque et finalement ça ne fait plus partie du langage. Donc, on considère que ce que l'on doit conserver, c'est uniquement ce qui est monument historique et ce qui est à la limite classé officiellement. On va conserver par exemple le beffroi ou l'église très facilement, mais par contre, toutes les petites maisons vont être radiées ou en tout cas effacées. Comme on dit pudiquement pour les barrages aussi, on les efface pour éviter de dire qu'on les détruit. On se retrouve face à un village qui ne ressemble plus à un village et une sociologie qui encourage finalement une individualisation. Et c'est finalement au cours de cette campagne que j'ai beaucoup plus axé ma campagne sur effectivement le lien social.
Parfait, bien merci. Vous êtes heureux de votre expérience tout de même ?
Très heureux. Alors vraiment, ça a été extrêmement intense. Ça m'a fait connaître beaucoup de monde localement. Ça a aussi remplacé une réputation qui m'était faite par l'ancien maire et qui n'est pas un secret, qui était complètement fausse. Alors maintenant, j'ai eu droit à une autre réputation qui dépend un petit peu plus de moi, mais qui est encore à défendre.
Dans quelques campagnes, peut-être qu'on découvrira le vrai Tanguy de Vienne.
Oui, c'est ça. Mais alors, c'est un village intermédiaire parce qu'on est près de 3000 habitants, ce qui fait qu'on ne peut pas rencontrer tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beau inviter à rencontrer, c'est une démarche qui doit venir des candidats, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une curiosité très... Il y a un engagement en fait dans les toutes dernières semaines. Et dans les toutes dernières semaines, il y a une sorte de précipitation qui fait qu'on ne choisit plus ses thèmes. Et justement, l'écologie, vous parliez des décharges sauvages, mais ce n'est pas le seul thème. Et en réalité, je n'ai pas trouvé qu'en fait ce thème-là était traité à la mesure de ce qu'il méritait.
Je suis bien d'accord avec vous. Alors, programme ce soir, nous allons parler de la nouvelle convulsion dans la grande crise agricole que vit la France et d'ailleurs plus largement l'Europe, puisque cette crise, elle dure déjà depuis plusieurs années. Et là, en l'occurrence, celle qui nous attend, la dernière convulsion, c'est au sujet des engrais, avec le blocage du détroit d'Ormuz. Puis, nous allons évoquer rapidement une étude qui montre une nouvelle fois le lien entre dérèglement climatique et biodiversité. Avant de nous attaquer au grand thème de cette émission, vivons-nous l'agonie du capitalisme ? Mais pour commencer, dans la tradition de cette émission, je vais vous demander à chacun de parler d'une personnalité, d'une loi, peu importe, d'un événement, quelque chose qui a marqué à vos yeux le combat écologique de ces dernières décennies ou même au-delà. Nicolas de Groot, c'est à vous.
Quand j'ai réfléchi à la question, c'est-à-dire quel personnage ou quel événement a marqué à mes yeux le combat écologique, la réponse qui me vient, c'est zéro, rien, nada. C'est-à-dire que le combat écologique existe depuis environ les années 70, en gros. Depuis les années 70, il est évident qu'il ne s'est rien passé, sinon que tout continue comme avant, que rien ne change et que tout progresse. On peut le prendre comme on veut. On peut prendre les émissions de CO2 dans l'atmosphère, qui n'arrêtent pas de croître et rien ne change. On peut prendre le dérèglement climatique, que ce soit du réchauffement ou des perturbations. Elle continue, elle s'intensifie, rien ne change. La biodiversité s'effondre, toujours au même rythme, c'est-à-dire un rythme qui accélère, un rythme exponentiel. Rien ne change. La sixième extinction de masse se porte bien, merci pour elle. Quand on suit ça, on apprend régulièrement que telle ou telle espèce qu'on aimait bien, maintenant c'est fini. La déforestation croît, l'Amazonie disparaît petit à petit, régulièrement, toujours à la même vitesse, qui est une vitesse sans cesse croissante. La bétonisation des sols, c'est pareil, hein, c'est 26 mètres carrés par seconde en France. 26 mètres carrés par
seconde. J'ai jamais réfléchi à la seconde.
Oui. Les pesticides continuent d'être utilisés, ils sont toujours plus puissants, toujours plus dévastateurs, etc. Donc rien ne change, et c'est ça la catastrophe. La catastrophe, c'est que tout continue comme avant. Catastrophe au sens propre, puisque en grec, la catastrophe, c'est un terme de poétique. C'est la fin d'une tragédie. Dans une pièce de théâtre, dans une tragédie, le moment où l'histoire est nouée, où les décisions ultimes sont prises, après ce moment-là, qu'on appelle le nœud, tout découle mécaniquement. Et les conséquences s'enchaînent les unes après les autres. Prenons par exemple Andromaque de Racine. Au moment où Andromaque finit à l'acte 4 par décider qu'elle va épouser Pyrrhus, eh bien Oreste assassine Pyrrhus puisqu'il est jaloux. Hermione, qui était amoureuse de Pyrrhus, voyant Pyrrhus mort, se suicide, etc. Donc la catastrophe, au sens grec, c'est l'enchaînement inéluctable de conséquences à laquelle on ne peut rien, on ne change rien, et ça suit sa trajectoire. Et la trajectoire, c'est que dans une tragédie, à la fin, tout le monde est mort. Quelle conclusion en tirer ? Rien ne bouge, rien ne change. Les gesticulations des hommes politiques n'y changent strictement rien. Il y a un petit malin qui s'est amusé, il a tracé la courbe de la progression du CO2 dans l'atmosphère, et sur cette courbe, il a mis toutes les COP. Elle ne change rien. La courbe ne s'infléchit pas d'un quart de poil. Ça change rien.
Y compris en Europe. Parce qu'il me semblait qu'au niveau de l'Union européenne, par exemple, les émissions aient tout de même enfin diminué. Même si c'est au faux. Niveau mondial, non. C'est compensé.
Alors
par
ça,
la Chine.
Y a, comme on dit aujourd'hui, il y a un narratif. En fait, c'est un mensonge intégral. C'est une parenthèse. Comment est-ce qu'on fait pour dire que les émissions de CO2 françaises ou européennes baissent ? C'est tout simplement parce qu'on a délocalisé. Donc on ne compte plus dans nos propres émissions la production dans des usines qui sont en Chine ou au Bangladesh des voitures ou des vêtements qu'on utilise. Donc évidemment, de ce point de vue-là, plus on est désindustrialisé, plus on est décarboné. Mais ce sont nos émissions. Donc c'est comme ça qu'on continue à mentir et à dire « Regardez comme nous sommes vertueux, nos émissions baissent ». Non, nous avons délocalisé et nous attribuons à la Chine ou au Bangladesh ou au Vietnam, des émissions de CO2 qui sont les nôtres. Parce que la voiture fabriquée en Chine, c'est la mienne. Ou en Roumanie, c'est la mienne. Quelle est la conclusion à tirer de ça ? C'est-à-dire, rien ne change, rien ne bouge. Je pense que la conclusion à en tirer est la suivante. Depuis les années 70, c'est pareil. Il faut donc en conclure que les problèmes écologiques ne sont pas liés à des personnes, ne sont pas liés à des groupements politiques, ne sont pas liés à des décisions. C'est pas un problème d'hommes, parce que les hommes changent, de gauche, de droite ou du centre, les hommes changent, les problèmes sont toujours exactement les mêmes. Ça veut donc dire, moi je vois pas d'autre solution, hein, c'est que nous sommes en face d'un problème systémique. C'est le système qui produit les problèmes écologiques, et pas les individus. Et donc on n'en changera pas avec une petite élection régionale, on en changera en changeant de système.
Très belle introduction. Désolé au thème de ce soir. Bravo.
Désolé pour la
c'est
touche
réussi.
Un peu pessimiste.
Non, on se connaît.
Non,
un
non,
peu.
Ça nourrit l'espoir.
Ça ne me surprend pas. Vous avez la corde, Tanguy, ou autre instrument de suicide après avoir écouté Nicolas de Groot ?
Non, en fait, je trouve qu'il y a un contre-pouvoir, mais qui s'illustre localement. C'est-à-dire que, en réalité, là, vous parlez des grandes instances, et c'est vrai qu'on a reposé sur le mode industriel, sur des économies d'échelle, en se disant que globaliser allait être plus efficace. Et finalement, on revient à un modèle, je dirais, d'une manière plutôt échantillon, ou en tout cas d'une manière homéopathique, mais je pense à des fermes résistantes ou même de nouvelles qui renouent avec la tradition, ou en tout cas la logique plutôt, du polyculture-élevage, et qui, à mon avis, est une source d'autonomie, et en tout cas qui est revendiquée comme telle, et qui est en réalité la véritable concurrence à ce système. Parce que là où j'adhère totalement, c'est que nous ne sommes pas dans une crise, nous sommes effectivement à la fin d'un système, on le voit d'ailleurs à plusieurs égards, on sent bien qu'il y a, je dirais, encore une minute, encore un instant, monsieur le bourreau. On le voit dans cette appétence, dans cette préemption à la fois des ressources, y compris à travers Donald Trump, effectivement une politique que l'on a du mal à comprendre, à part dans une volonté de prolonger quelque chose qui... On sent derrière de toute façon une angoisse, et on sent également émerger, mais localement, des solutions alternatives qui reconnectent avec non seulement le réel, mais qui privilégient un mode de vie plutôt que l'abondance ou l'illusion de l'abondance.
Très bien. Est-ce que vous avez peut-être un exemple, une personne à nous présenter qui rosisse un peu le tableau?
Oui, alors évidemment, quelqu'un que vous m'avez fait connaître il y a bien longtemps, mais que je trouve absolument passionnant, qui est Ivan Illich, et qui lui, justement, dénonçait bien avant l'heure ce phénomène d'intention de départ qui finalement... En s'imposant comme une solution ultime, devient son propre ennemi et finalement devient contre-productif. Il appelle ça d'ailleurs le monopole radical. Alors on le voit par exemple dans les transports où la finalité au départ, c'est de se déplacer plus efficacement. Et la finalité aujourd'hui, c'est finalement l'industrie automobile. Et avec un paysage urbain qui finit par empiéter sur tout ce qui est absolument nécessaire, et on finit par croire que les autoroutes sont plus nécessaires que d'avoir des champs cultivés. Quand on parle de l'artificialisation des sols, je pense qu'il y a une conscience, malgré tout, un inconscient collectif qui adhère totalement au fait de préserver les terres arables et qui pourtant voit pousser à droite et à gauche, je dirais même surtout dans les zones périurbaines, une artificialisation absolument galopante. Et à côté de ça d'ailleurs, des terres qui sont purement et simplement abandonnées parce que souvent... loin des pôles de consommation. On a déjà eu d'ailleurs dans cette émission l'évocation justement de ce phénomène-là, où le local n'est possible que s'il y a un marché aussi local.
C'est d'ailleurs la fausse image donnée par l'augmentation de la surface forestière en France. Dans la réalité, c'est un retour de terres arables, en particulier en moyenne montagne, à une forme de sauvagerie, c'est ce que les Romains appelaient le saltus, c'est-à-dire plutôt de la broussaille assez peu... utile à la biodiversité, qu'à une belle forêt riche et qui a un rôle écologique majeur.
Surtout qu'on ne parle pas de densité.
Exactement.
C'est effectivement, si on parle de zone forestière, quel est l'âge moyen des arbres et qu'est-ce qui y pousse, quoi.
Et aujourd'hui, beaucoup de mono-sylviculture. Enfin bref, on a effectivement déjà évoqué ce sujet.
Oui, mais en fait, on brosse plusieurs thèmes, mais là, je suis impatient de les creuser, justement.
Ah, ben voilà. Alors, lequel choisissez-vous?
Alors, la loi du plomb était... comment? Alors, j'ai un rapport à la loi du plomb qui est personnel, puisque...
Ah, donc là, vous voulez d'autres enjeux, d'autres sujets dans les... dans les phénomènes, dans les lois, les moments qui vous ont marqué dans le combat écologique?
Oui, en fait, déjà je trouve qu'il y a, à travers la loi du plomb, une adhésion à un modèle ancien que l'on sait condamner et qui condamnera ceux-là même qui le soutiennent malgré tout. C'est-à-dire que je trouve qu'elle est tout à fait emblématique. C'est une loi pragmatique à court terme et qui pourtant à long terme, on le sent très bien, valide un modèle qui est de toute façon condamné par lui-même puisque c'est les superstructures, je dirais, ou même les agriculteurs les plus pourvus en terre qui pourront se sauver dans un premier temps, mais qui malgré tout valident un marché international avec lequel ils ne pourront pas rivaliser à terme puisqu'on a certaines régions du monde où on peut pratiquer 2 à 3 récoltes. Comment peut-on, lorsqu'on en a deux maximum en France, et que l'on voit que la taille critique, si on doit atteindre 30 000 hectares, bon, on est dans la monoculture, on n'est plus du tout dans le polyculture et élevage, on n'est plus du tout dans l'autonomie, on est dans la dépendance vis-à-vis des intrants, vis-à-vis de l'énergie. Enfin, on valide un modèle qui est déjà épuisé.
Nicolas de Groot, votre avis sur la question ?
Sur la question de...
Loi du plomb, est-ce que effectivement c'est aussi un des symptômes de cet effondrement systémique voilà,
la loi du plomb, et puis derrière ce que disait Tanguy de Vienne, il y a aussi le Mercosur. Je pense que c'est essentiel, et peut-être qu'il faut prendre un tout petit peu de recul, pour voir que c'est pas du tout un détail de l'histoire, et que la loi du plomb, Monsieur Duplomb n'en est absolument pas responsable, même si c'est... celui qui lui a donné son nom. Quand on fait un peu l'analyse de l'évolution de l'agriculture dans le monde occidental, dans les années 45, il faut remonter jusqu'en 45, il se passe quelque chose, on change le visage de l'agriculture, ça devient de l'agriculture 2.0, c'est-à-dire on mécanise, on met des tracteurs. Les raisins de la colère dont vous parliez en introduction. Qu'est-ce qui se passe quand on met des tracteurs? Les tracteurs, ça coûte cher. Donc il faut rentabiliser le tracteur. Donc on augmente la taille de l'exploitation agricole. On défait les haies. Les tracteurs se spécialisent. Et on ne peut pas acheter tous les tracteurs pour toutes les tâches agricoles. C'est impossible. Ça coûte beaucoup trop cher. Donc, dès qu'on met des tracteurs, dès qu'on met de la technique, on a une tendance à la monoculture. Parce que quand on achète par exemple une planteuse à salade qui vaut je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros, on a engagé la production de son exploitation agricole pour faire des salades pendant 20 ans, pour rentabiliser sa planteuse à salade. Quand on va vers de la monoculture et non plus de la polyculture plus élevage, automatiquement, on a des problèmes parce qu'on ne peut plus désherber, parce qu'on n'a plus la main-d'œuvre pour maintenant qu'on a des tracteurs. On a des problèmes avec des ravageurs, parce que la monoculture attire les ravageurs, qui peuvent ravager la totalité de l'exploitation. Une fois qu'on a des problèmes, une fois qu'on n'a plus d'élevage, on a des problèmes d'engrais. Donc dès qu'on met un tracteur, c'est-à-dire dès qu'on rentre dans une agriculture industrialisée comme on l'a fait en 45, on est obligé, mais obligé, il n'y a pas de choix, d'avoir recours à des intrants, c'est-à-dire à des engrais chimiques, azoté, phosphaté, dont on reparlera plus tard, on est obligé d'avoir des herbicides, des fongicides, des pesticides. Donc en fait, je pense qu'on passe à côté du problème de la loi du plomb si on ne la met pas dans l'agriculture intensive. C'en est la conséquence nécessaire. Mais il y a aussi les problèmes, ça c'est en amont de la culture.
J'en profite simplement pour rappeler à nos auditeurs, la loi du plomb, donc portée par le sénateur du même nom, comportait trois volets. Réautorisation de l'acétamipride, qui est un néonicotinoïde, théoriquement le moins nocif des néonicotinoïdes, mais donc un insecticide puissant.
Mesure censurée, d'ailleurs.
Voilà, qui a été finalement censurée, mais c'est la loi originellement c'était celle-ci. Donc trois volets, augmentation de ce pesticide, en particulier pour soutenir les populations de betteraviers, et certainement pas celles d'insectes, et puis également culture de noisettes, et un peu de culture de maraîchage. Et puis deuxième volet, la possibilité d'agrandir son élevage de façon plus simple et souple. Et là, ça ne parle qu'en réalité qu'à 3 ou 4% des élevages en France. On parle déjà d'élevage très important.
Mais 60% par contre de l'élevage.
En termes de production. Et puis troisième volet sur les bassines, pas forcément méga, mais sur les bassines en général, c'est-à-dire trouver des solutions d'irrigation face au dérèglement climatique qui peuvent effectivement sembler un peu anachroniques. Voilà, c'était un simple rappel sur le contenu de la loi du plomb.
Donc on voit que quand on a une agriculture industrielle qui se met en place, l'exploitant agricole est dépendant de toute une chaîne en amont, avec les intrants, c'est-à-dire les pesticides, les herbicides, etc. Il faut voir aussi comment fonctionne un pesticide. On avait déjà parlé avec le glyphosate. Quand on met du glyphosate pour éliminer les mauvaises herbes, en fait, le glyphosate, lui, il choisit pas. Le glyphosate désingue tout. Et donc, on achète du glyphosate à Monsanto, et Monsanto vend en même temps la semence, Roundup Ready, la semence qui va résister au glyphosate. Et donc, inévitablement, mécaniquement, l'agriculture industrielle va aussi être tributaire des semenciers. Et on ne pourra plus replanter ses propres semences, puisqu'ils nous font des semences qu'on ne peut pas replanter des stériles. Ça, c'est pour l'amont de la production. Mais on a les phénomènes parallèles en aval. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'exploitation industrielle qui produit massivement peu de produits différents, et non plus du polyélevage, eh bien forcément, on ne va pas vendre au marché du village. Ça n'encaisse pas. Donc on se retrouve immédiatement sur un marché mondialisé, avec comme interlocuteur de la grande distribution, ou pire encore, l'agroalimentaire. Et on a une agriculture qui devient ce qu'on appelle intégrée. C'est-à-dire le paysan est intégré dans une chaîne, la chaîne commence en amont de lui, les intrants, les semenciers, elle se termine en aval de lui, les marchés, la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Cet amont et cet aval se relancent l'un l'autre. Ce qu'on n'a pas assez dit à propos de la loi du plomb, c'est que si les betteraviers se sont retrouvés pris à la gorge, et effectivement, les betteraviers ne peuvent pas exister sans les néonicotinoïdes. Mais pourquoi ? Parce qu'en 2017, le marché de la betterave à sucre a été libéralisé. En 2017. Et donc, les betteraviers français se sont retrouvés en concurrence avec les betteraviers du monde entier, qui n'ont pas les mêmes conditions pédoclimatiques, et surtout, qui n'ont pas les mêmes conditions sociales et écologiques. Par conséquent, une perte de 20 à 30% de la récolte de betteraves, c'est ce qu'aurait donné la perte liée aux insectes, ou je ne sais plus si c'était un insecte ou un... perte de 20 ou 30% est insupportable.
Qui est transmise par des pucerons.
Ils ne peuvent pas faire sans. Et quand la FNSEA, que je ne porte pas dans mon cœur, c'est le moins qu'on puisse dire, mais quand la FNSEA dit « nous ne pouvons pas avoir une agriculture dans un système libéral, mondialisé, ce qui est le cas aujourd'hui, sans pesticides, sans intrants, sans engrais, dont on parlera plus tard, c'est pas possible. La FNSEA a raison. Là où elle a tort, c'est qu'elle en conclut, mettons plein de pesticides. Moi, ma conclusion serait, sortons de ce système.
Ce serait idéal, tant qu'ils deviennent.
Oui, je nuancerai un peu, parce que la FNSEA, en fait, n'a raison qu'à la condition de valider cet axiome qui est le marché est mondialisé. Or, on sait très bien que le souverainisme que nous défendons souvent ici à Radio Courtoisie serait aussi une réponse dans la mesure où toute cette agriculture intensive, il ne faut pas l'oublier, est la première à bénéficier des aides de la PAC et donc est encouragée aussi par un système. Donc, s'il y avait une écoute plus attentive de la petite échelle, qui d'ailleurs intègre le tracteur hein, de temps en temps. Enfin, je veux dire, ce n'est pas non plus la grelinette ou comme je ne sais plus quels outils sont les symboles de la
grelinette,
la grelinette.
Oui, oui, on peut l'introniser comme un véritable symbole, mais on peut être dans une échelle. Je me souviens de Sébastien Béraud qui nous disait au-delà de 150-200 hectares, on rentre effectivement dans un système qui se dégage de la polyculture élevage. En fait, il y a un seuil critique au-delà duquel on entre effectivement dans une industrialisation, on joue le jeu en fait de l'agro-industrie.
Mais et à 50 vrai que... ans, ce seuil aurait été de 40 hectares.
Non mais en fait, oui. C'est ça. Je suis désolé, mais moi je suis pas du tout
Nicolas
d'accord avec ça. Ah, absolument pas. Pourquoi ? Je pense que les discours souverainistes sont très beaux, mais ce sont des discours. C'est-à-dire, ce que j'ai essayé de montrer en faisant l'histoire de l'agriculture 2.0, c'est que l'agriculture nationale souverainiste, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les semenciers, Bayer, Monsanto, les engrais phosphatés, c'est pas en France. Les fabricateurs de moissonneuses-batteuses ne sont pas en France. Les marchés, des matières premières ne sont pas en France. Les géants de la grande distribution ou de l'agro-industrie ne sont pas en France. C'est-à-dire que immédiatement, d'entrée de jeu, automatiquement, une agriculture industrialisée ne peut pas être nationale. Dans les discours, ça, tant qu'on veut. Mais c'est tout de suite. Et en plus, on le voit encore mieux si on pense à les générations suivantes. C'est-à-dire que l'agriculture 2.0, c'est mécanisé. L'agriculture 3.0, qui arrive dans les années 80-90, c'est l'agriculture avec de la chimie et de la génétique, ce sont les OGM.
Oui.
Mais là encore, c'est la science qui fait des OGM, et la science, elle est mondialisée, elle n'est pas nationalisée. Quant à l'agriculture 4.0, celle que nos agriculteurs vont bientôt se prendre pleine face, c'est l'agriculture numérisée, par drone, par robotisation. Mais là encore, ça n'est absolument pas nationalisable. Il n'y a pas de data center, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas de GAFAM en France. Et les petits agriculteurs qui restent, donc, laissons de côté les micro-exploitations qui font du bio. On pourrait développer, mais moi je pense que les exploitations de bio ne sont pas du tout une forme alternative à l'agro-industrie, c'est le complément d'offre. Le bio, ça sert à dire quoi ? C'est-à-dire à dire que ceux qui ne sont pas contents parce qu'ils ne veulent pas un cancer, ils n'ont qu'à s'acheter du bio, c'est leur problème, la solution est dans les mains du consommateur, par conséquent, elle n'est pas dans les mains du politique. Fermons cette parenthèse, les petites exploitations qui ne tiennent pas le rythme de l'innovation, de la mécanisation, sont incapables de tenir les coûts et disparaissent. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, tout simplement. Le Mercosur va détruire tout ça encore plus, mais le Mercosur n'est pas une nouveauté. Le Mercosur n'est pas une révolution, le Mercosur n'est pas une trahison. J'ai été très étonné de voir Ursula von der Leyen trahir l'Europe. Rien du tout. L'Europe a toujours été libérale et elle a toujours libéralisé les différents marchés. Et le marché de l'industrie, parce que c'est une industrie aujourd'hui, de l'industrie agricole, a été libéralisé depuis le début, depuis le CETA, depuis et plein d'autres comme ça. Le traité de Lisbonne qui a livré la production de fruits et légumes à l'Espagne. Donc en fait, on a une continuité dans la manière dont on traite l'agriculture, et l'agriculture est traitée comme une industrie qui est sommée de produire à bas coût, et si jamais elle ne produit pas à bas coût, eh bien elle est délocalisée. On a fait une agriculture industrielle, on la délocalise. Et donc il n'y a pas de solution à de l'industrie nationale, parce que l'industrie nationale déjà ça n'existe pas, et en plus ça ne réglera aucun des problèmes, ça ne fait que les déplacer, à mon avis.
Langue de Vienne.
Oui, j'avoue que c'est une démonstration qui pourrait être convaincante, mais je me dis que tout ça, c'est le fruit de décisions politiques. C'est-à-dire que si on décide d'industrialiser à outrance, ça reste une décision. C'est l'internationalisation aussi des échanges est une décision. Je ne vois pas en quoi le souverainisme et je dirais même l'autonomie ne serait pas une alternative crédible dans la mesure où on voit malgré tout une agriculture paysanne qui résiste sans aide ou en tout cas avec très très peu d'aide en étant assommée de je dirais d'administratifs dans tous les sens. En tout cas, quand on les écoute, c'est ce dont ils se plaignent. Je me souviens très bien de Sébastien Béraud qui nous disait si on nous donnait 150 000 euros, c'est bien simple, on réglerait 90% de nos problèmes. Donc je me dis, quand on est sur des petites échelles, alors là, en l'occurrence, Sébastien Béraud était sur une échelle, je crois, de 150 ou 200 hectares, dans le centre de la France, je ne me souviens plus exactement.
Oui, il est en Haute-Loire, je crois,
Haute-Loire.
Si je ne dis pas de bêtises. Loire ou Haute-Loire.
Voilà, donc en fait, une échelle intéressante, et je trouve que ce sont des acteurs à écouter, puisqu'on se rend compte qu'ils n'ont pas rejeté totalement les intrants, ils n'ont pas rejeté totalement la mécanisation, mais ils le font avec discernement. On a aussi des fermes beaucoup plus engagées, qui sont effectivement peut-être plus anecdotiques, mais qui ont une véritable adhésion. Je pense à la table de Gaïa, enfin, que j'ai déjà évoquée, et qui, elle, se mobilise pour justement faire prendre conscience à quel point l'administratif, les contrôles, l'éradication aussi des cheptels, alors qu'il y avait une véritable richesse génétique à travers ces cheptels, et qu'on éradique à coup de, d'une autorité absolument, mais d'une violence hallucinante, comme s'il s'agissait de véritables voyous, alors qu'on sait très bien que ce virus-là...
La dermatose.
La dermatose, voilà. Ouais, n'était pas une maladie absolument... on pouvait quand même vivre avec.
On y revient dans le système actuel si la dermatose
nécessite
effectivement un abattage des troupeaux massifs.
Ah non,
j'y adhère pas. Dans le sens où effectivement, si la maladie se répand, etc., ça peut nuire au commerce mondial.
Mais surtout quand
et ainsi
on
de
voit...
suite. C'est parce que le modèle aujourd'hui est totalement globalisé qu'on doit en passer par ce genre
d'abattage. Mais ce modèle-là a été choisi. Choisi, il est sponsorisé, donc forcément aujourd'hui quand on donne le pouvoir à la FNSEA et à ce mantra-là...
D'accord sur le fond, c'est la critique du modèle actuel, la différence tant que Tanguy de Vienne espère dans le souverainisme comme étant une alternative à ce système aujourd'hui tant que...
Le localisme, je dirais plutôt.
Oui, mais alors que le système continue à exister, alors que Nicolas de Groot, si je comprends bien... considère que tant que ce système n'est pas à bout, vraiment dans la totale agonie et qu'il ne disparaît pas, il n'y a pas de politique alternative crédible. Pour résumer, c'est à peu près ça.
Oui, et par exemple, y a deux éléments qui ont été mentionnés. Je partage entièrement l'analyse de Tanguy de Vienne sur le matraquage bureaucratique avec les normes, etc. J'ai pas la compétence pour savoir dans quelle mesure c'est justifié ou pas, mais je vois bien que c'est une souffrance pour les agriculteurs et parfois c'est kafkaïen. Mais le premier élément, c'est le localisme. Localisme qui est peu ou prou la doctrine écologique souvent mobilisée à droite. Le localisme, compte tenu de ce que j'ai essayé d'expliquer sur l'évolution de l'agriculture intensive, le localisme paraît être un mot vide de sens. C'est-à-dire, quand on a une exploitation de 150, 200 ou 300 hectares, le localisme, le terroir, c'est un discours, c'est pas de la réalité. On a un tracteur, on a des semences, on a du pétrole qui ne sont pas locaux, et on vend sur des marchés ou à des acheteurs à des prix qui ne sont pas fixés localement. Le localisme, tant qu'on est dans une agriculture industrialisée, c'est-à-dire mondialisée, est un mot vide de sens. Et je pense même chose, mais là c'est un autre débat, je pense que c'est la même chose pour la décision. Dans le mécanisme d'évolution de l'histoire de l'agriculture, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des bouquins de philosophes là-dessus, on voit bien qu'en réalité, il y a assez peu de décisions. Ce sont malheureusement, c'est ça le problème, je suis premier à regretter, mais dans une économie de marché, la politique est là pour passer les plats au marché. Dans une économie de marché dans laquelle nous sommes, les décisions sont prises par le marché et sont entérinées par la politique. Et c'est le marché qui instrumentalise le souverain et non pas dans l'autre sens. Et donc en fait, si jamais on utilise des pesticides... Par exemple, prends l'exemple des pesticides. C'est pas parce qu'il y a des décisions souveraines d'État qui autorisent ou pas les pesticides. C'est que dans une agriculture industrialisée, sans pesticides, on ferme la baraque.
Oui. Merci à tous les deux, parce que vous donnez vraiment le fil rouge de l'émission. On commence, je pense que ceux qui nous écoutent comprennent bien dans quel système on vit. Et on va par la suite dans cette émission essayer de voir s'il est ou non finissant ce système, s'il est en agonie ou non. Je vais simplement faire un point sur les engrais parce que on est totalement dans la thématique de l'émission. À l'heure actuelle, donc c'est très drôle, on s'est tous les trois rencontrés il y a 2 ans, donc c'était la première entre guillemets éruption agricole. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais effectivement, c'était la première convulsion. À l'époque, c'était l'effet ciseau. Alors, il y avait d'un côté des intrants qui étaient chers, donc les engrais, les pesticides, à des niveaux de prix importants, et les prix venaient de baisser fortement, et donc les agriculteurs se retrouvaient étranglés. Eh bien, aujourd'hui, on est toujours dans cette crise. Cette nouvelle crise, elle va certainement venir du détroit d'Ormuz, puisque avant la guerre, 31% des exports mondiaux d'urée, l'urée c'est ce qui est à la base donc l'engrais le plus essentiel pour l'agriculture qu'on dit conventionnelle.
Devenu indispensable.
Qui est de fait indispensable pour obtenir des rendements importants.
Voilà, non clairement. Mais j'insiste sur le devenir.
Oui.
Depuis que le monde est monde, on n'a pas eu besoin toujours de ces engrais.
On avait aussi des rendements très très bas. Et des populations qui connaissaient la famine. D'ailleurs, on reviendra peut-être sur ce sujet, c'est l'occasion sur les engrais. Ouais. Donc c'était 20% des exports de gaz naturel liquéfié qui sert justement à transformer et à obtenir des engrais azotés. Et c'était 18% des exports d'ammoniac. Alors aujourd'hui, on est dans une quasi totale dépendance vis-à-vis de l'international en France, même si nos dernières usines ont fermé récemment, c'était Grand Puy la dernière. Heureusement, on envisage, enfin heureusement pour en tout cas ce type d'agriculture, la France envisage la création c'est ainsi qu'il est intitulé, un Airbus des engrais dans le nord du pays.
Quelle
qui
belle
permettrait
nouvelle.
De fabriquer nous-mêmes nos engrais et de ne plus dépendre. Aujourd'hui, on dépend de la Russie principalement, du Maroc ensuite, la Russie c'est tout de même savoureux. Et puis effectivement, on dépendait beaucoup du golfe d'Ormuz. Ce qui se passe, là j'essaie de vous mettre dans la tête d'un agriculteur, c'est qu'aujourd'hui, dans les faits, 80% ou 90% des exploitations agricoles sont dépendantes de ces engrais dits minéraux. La part du compost ou des engrais animaux est extrêmement basse. Ils passent commande, les agriculteurs, l'année qui précède la récolte. Donc là, aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser des engrais qu'ils ont payés, en réalité, entre le mois de juillet et le mois de septembre dernier, donc 2025. À 7h, à l'heure où je vous parle, ils ne savent pas, d'abord, s'il y aura des engrais à commander pour la prochaine saison, et surtout, quel en sera le prix. L'agriculture aujourd'hui, telle qu'on la vit, c'est-à-dire l'agriculture conventionnelle, mondialisée, peu importe comment on l'appelle, est un système où l'agriculteur ne connaît pas son prix de vente à l'heure où il sème son grain, le prix de vente de sa récolte, qui peut fortement fluctuer en fonction des récoltes ici et là dans le monde, la Chine, les États-Unis en particulier, l'Australie, l'Argentine dans une moindre mesure, la Russie bien entendu, et son gain va dépendre aussi du coût des intrants, donc des engrais en particulier, qu'il ne connaît pas forcément à l'avance, puisqu'une partie des prix vont être fermes, c'est-à-dire qu'ils payent au prix actuel, et on n'a tout simplement pas connaissance des prix, et une partie, c'est de la vente à terme, donc il va payer un prix moyen d'abord, qui va être compensé ensuite. Là, par exemple, les agriculteurs, dès aujourd'hui, savent que le prix qu'ils ont payé, généralement 400 € la tonne d'urée, par exemple, va en fait être augmenté peut-être d'environ 100 €, ce qui est très très lourd pour une exploitation. Donc voilà quelle est la prochaine crise, c'est qu'aujourd'hui, une bonne partie des agriculteurs n'est pas sûre de semer, tout simplement, et préfère laisser en friche ou mettre des cultures qui durent un peu plus longtemps et qui demandent moins d'intrants, comme la luzerne, par exemple, parce qu'ils sont certains, au prix actuel des céréales, sur le blé, c'est 175 € la tonne, ils sont certains, au prix des intrants et de la récolte actuelle, qu'ils vont perdre de l'argent l'année prochaine. Je sais pas si vous imaginez le délire dans lequel on a pu arriver avec cette dépendance énergétique.
Je me permets de faire une parenthèse, on avait déjà eu ça il n'y a pas très longtemps, et ça va peut-être revenir, lors de la flambée des prix du pétrole.
Exactement.
Qui avait impacté le fuel des tracteurs, puisqu'il y a des tracteurs partout maintenant, et il y en avait qui avaient fait leurs calculs, et en fait, ils perdaient de l'argent en sortant bosser. Rien qu'en alimentant le tracteur, ils étaient déficitaires, donc ils ont arrêté de bosser. Et là, on peut craindre aussi que l'augmentation des prix du pétrole, je ne sais pas quelle est la position de l'État, si l'État la répercute ou pas sur le prix du fuel agricole, enfin c'est peut-être pas le terme exact.
C'est en discussion, c'est le GNR, le gazole non routier.
ça, ça va pas non plus les aider.
Ah non, oui, oui, même si c'est moins important comme poste de dépense que les engrais qu'il a vraiment
sont vitaux. Ça s'accumule.
Exactement, ça s'accumule. Là, de toute façon, la crise va être majeure. Donc effectivement, est-ce qu'on est au bout du système? C'est difficile à dire, c'est-à-dire que certains vont dire... Bah, c'est un peu votre échange à nouveau, hein, votre débat. Si on recrée une usine d'engrais, qu'on réussit à trouver nos propres sources d'approvisionnement relativement protégées, peut-être qu'on pourra finalement continuer à un peu ce modèle en étant plus raisonnable sans doute que beaucoup de pays dans le monde, parce que la France, objectivement, a des normes plus strictes en matière de protection de l'environnement, en matière de protection de la santé publique, tout simplement, en matière de protection sociale. On est parmi les mieux disants dans le monde. Donc, est-ce que il est possible de continuer, j'allais dire, de manière plus raisonnable et plus indépendante, ou est-ce que le système est en bout de course? Moi, je pense que ça introduit très bien le grand débat sur, finalement, est-ce que nous vivons l'agonie du système productiviste, capitaliste, libéral, qui a entraîné, on disait, cette agriculture dépendante de la mondialisation, dépendante de ressources très extérieures, dépendante de chimie, dépendante de risques à terme pour la biodiversité, pour l'écologie, pour le dérèglement climatique, mais également, je dois le rappeler, il n'y a pas de techno-productiviste à cette table, donc je vais jouer un peu ce rôle, mais également qui est capable de produire des rendements inconnu dans l'histoire de l'humanité, qui est capable de produire partout dans le monde, qui est capable d'avoir diminué, fait disparaître à peu près totalement la famine dans le monde, qui est capable de produire des rendements mais hallucinants. Il faut voir que sur le même champ, exploité vraiment sur exactement les mêmes surfaces, avant la mécanisation et avant les intrants minéraux ou chimiques, vous êtes à 30 quintaux l'hectare, là où aujourd'hui vous pouvez atteindre les 100. Voire les dépasser dans les bonnes terres de la Beauce ou du Soissonnais. À quel prix? Aujourd'hui, longtemps, on a dit, là encore, je me fais l'avocat du diable, mais c'est vrai, longtemps, on a prévenu, c'était les Célos, etc., qui disaient, mais attention, le sol s'appauvrit. C'est vrai dans certains sols, dans d'autres, la Beauce, par exemple, les rendements restent constants. C'est effarant. Alors, combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va s'arrêter? Et aujourd'hui, c'est une des questions. Par ailleurs, j'introduis ça et je vous laisse en débattre, il y a tout de même la question des nouvelles technologies. Souvent, le capitalisme a été sauvé par ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, on voit par exemple les premières machines qui désherbent au laser et qui vont uniquement cibler les espèces désirées. Ça ne sera pas polluant, beaucoup moins polluant que l'était la chimie d'un côté et le tracteur au moteur thermique de l'autre. Vous avez idem pour les récoltes, des systèmes de drones, des systèmes de robots. Donc je dois représenter dans ce débat celui qui défend les solutions technologiques qui vont permettre des meilleurs rendements, moins de pollution, etc. Alors, à vous, je propose que ce soit Nicolas de Groot qui introduise le sujet, parce que je pense que c'était le grand thème de l'émission, puisque c'est votre sujet de prédilection aussi. C'est, voilà, est-ce que ce système est dans bout de course, qu'on disait sur les engrais, sur le système agricole, ce que disait Tanguy de Vienne sur la folie, par exemple, de cette loi du plomb? Est-ce que ça vous semble être des
signaux?
Elle n'était
pas folle, je ne la qualifie pas de folle.
En tout cas, vous
la
qualifiez de signal de
Pour moi, c'est la validation d'un système à bout de course qui, en fait, s'offre un sursis.
Alors, donc, est-ce que, effectivement,
oui, vous avez raison,
ce système est à bout de course?
Alors, on peut prendre un peu de recul et, puisque je pense que c'est là-dessus que vous voulez m'emmener, ne pas se focaliser sur l'industrie alimentaire motorisée. Industrie alimentaire motorisée, c'est la définition par Heidegger de l'agriculture intensive.
Très très bonne définition, je ne la connaissais pas.
Industrie alimentaire motorisée. Il dit ça dans les années 40, hein. Bref, pour prendre en compte plus globalement la question d'un possible essoufflement du système capitaliste. D'où ça vient cette idée? C'est une idée qui consiste à dire qu'il y aurait des limites qui, à plus ou moins longue échéance, vont abattre, mettre à terre, qu'on s'en réjouisse ou non, peu importe, le capitalisme. Ce sont des analyses qui viennent de Marx et des marxistes. Alors, comme j'ai dit, Marx est marxiste à Radio Courtoisie, je précise tout de suite, comme je l'avais déjà fait, que je ne suis pas marxiste, mais alors pas du tout, ce qui me fait un point commun avec Marx lui-même. Marx avait clairement dit, publiquement et écrit, à la fin de sa vie, je cite, « Une chose est sûre, c'est que moi, je ne suis pas marxiste. »
Génial.
Comment distinguer en gros? Donc les marxistes sont des héritiers un peu délirants de Marx, ça court les rues aujourd'hui, et Marx lui-même. En gros, c'est assez facile. Le concept central du marxisme et d'un marxiste, c'est la lutte des classes. C'est toujours de la faute des bourgeois, c'est de la faute des capitalistes, c'est de la faute des 200 familles, c'est de la faute de la finance internationale, c'est de la faute des dirigeants et de Trump et de Poutine, c'est de la faute de la davocratie. Ça, c'est l'analyse marxiste de base. Classe sociale. Et donc, pour sortir de tous les problèmes, il suffirait que le prolétariat ou un autre groupe social, la droite, prenne les manettes du dispositif économique et tout irait mieux. Marx lui-même ne dit jamais ça. Ou du moins, le Marx de la maturité. Le Marx très jeune, c'est autre chose. Que dit Marx ? Marx est un philosophe. C'est pas un révolutionnaire, c'est un philosophe qui s'est donné comme tâche dans ses ouvrages de penser le monde contemporain. Et Marx dit explicitement... moi, la lutte des classes, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que ça ne m'intéresse pas ? Parce que la lutte des classes, un, c'est pas moi qui l'ai inventée. La lutte des classes, c'est connu comme le loup blanc depuis l'Antiquité. La révolte des Gracques, les plébéiens, les patriciens, les révoltes d'esclaves à Sparte, les jacqueries dans l'Occident médiéval. Donc, la lutte des classes, un, c'est un concept qui n'est pas de moi. Et deux, c'est un concept qui ne m'intéresse absolument pas, puisque moi, Marx, ce qui m'intéresse, c'est de penser le monde contemporain. La lutte des classes a toujours existé, donc c'est pas une clé pour comprendre le monde contemporain. Point barre. Et Marx a écrit un grand ouvrage, son ouvrage clé, qui s'appelle pas La lutte des classes, qui s'appelle Le Capital. Et il s'appelle pas Les capitalistes. Il s'appelle Le Capital. Et donc, au cours de son travail sur Le Capital, Marx étudie quels pourraient être des événements ou des logiques qui pourraient faire imploser ou stopper le capital. Ce que lui appelle de ses voeux, mais c'est secondaire, en fait. Il en a discerner un premier, c'était le prolétariat. Et il a dit, le capitalisme génère de la misère, voire par exemple germinale, et ben au bout d'un moment, les prolétaires qui sont très nombreux vont en avoir marre d'être exploités, ils vont se révolter, et ça sera la fin du capital parce qu'il n'y aura plus d'ouvriers. Marx, là-dessus, s'est complètement trompé, il faut le reconnaître. Il s'est complètement trompé puisque le capitalisme s'est adapté, et il s'est adapté avec le fordisme, c'est-à-dire avec la société de consommation. Les prolétaires, on a augmenté leur salaire, ils ont acheté des voitures, un pavillon de banlieue et une télé, tout ça à crédit, ils sont partis en camping à Palavas-les-Flots, ils sont contents, ils ne se révoltent plus.
Il y a une pointe de décondescendance. Attention.
Oui, assez, c'est-à-dire qu'être satisfait de ça, je trouve ça triste. Et le plus triste, ce n'est pas les prolétaires d'aujourd'hui, c'est ce que le capitaliste a fait des prolétaires. D'hommes libres, on en a fait des aliénés. Et en plus, c'est pas tellement de la condescendance, c'est de l'indignation. Enfin bref, donc cette première rupture, cette première élément externe a été avalée par le capital. Et vous avez raison, François, quand vous dites que le capital avale les contradictions. Il a avalé bien des crises. Mais la grande thèse de Marx, ça consiste à dire qu'il y a quelque chose qui est niché au cœur du processus capitaliste, qui n'est pas un truc extérieur qu'on peut esquiver, qui va inévitablement le dégrader. C'est quoi ce truc ? C'est ce qu'on appelle la baisse tendancielle du taux de profit. En gros, ce qu'on appelle capitalisme, c'est un gros mot qui fait assez Marx, c'est ce qu'on appelle aussi de manière très simple l'économie de marché ou la société de marché. Qu'est-ce que c'est qu'une économie de marché ? C'est une économie où tout, absolument tout, a été produit et vendu sur un marché. Vous pouvez regarder, vous qui nous écoutez, partout autour de vous, tout a été fabriqué et vendu. Et tout ce qui est dans votre maison, vous l'avez acheté sur un marché. Les humains, bientôt, on va y passer, nous aussi, avec la GPA, la PMA, le transhumanisme, etc. Donc, le capitalisme consiste à produire des marchandises qu'on vend sur un marché, et les gens vont sur le marché acheter des marchandises. On a séparé la production de la consommation. Je produis des trucs qui ne sont pas pour moi, et dans mon métier, et j'achète des trucs que je n'ai pas produits sur le marché. Comme le capitalisme veut gagner de l'argent, pour gagner de l'argent, il a recours à des machines. Les machines, c'est génial. Ça permet d'abaisser les coûts de production et de faire de l'argent. Prenons un exemple très simple. On invente. Imaginons que les chemises valent... Une chemise, ça vaut 100 euros. Il y a un petit malin qui, un jour, achète des machines ultra perfectionnées, qualité allemande, impeccable. Avec ces machines, il fabrique ses chemises deux fois plus vite. Elles lui reviennent deux fois moins chères. Je schématise. Elles lui reviennent deux fois moins chères. Elles lui reviennent à 50 euros avec ces machines. Et s'il les vend à 100 euros, il fait des marges colossales que ses concurrents ne vont pas faire. S'il est malin, il va même les vendre à 80 euros, comme ça il va avaler la concurrence. Donc là, les machines, la technique, induisent des gains prodigieux. Mais il y a un deuxième mécanisme de marché qui se met en place. Ce deuxième mécanisme de marché, propre marché, on est dans la logique du marché, on n'est pas extérieur. C'est la concurrence. Les autres fabricants de chemises, ils ne sont pas bêtes, ils vont mettre les mêmes machines. Et comme ils vont mettre les mêmes machines, les chemises, eux aussi, vont leur revenir à 50 euros. Petit à petit, tous les prix vont baisser et tous les prix vont se niveler sous l'effet de la concurrence. L'industrialisation, la mécanisation, les machines, ça a tendance à baisser les prix. Et il est évident qu'un produit industriel, par exemple une tomate industrielle, pour revenir à ça, ça vaut 1000 fois moins cher qu'une tomate naturelle. Pour l'instant, on ne voit pas où est le problème. Mais le problème, il arrive. C'est-à-dire que les marchandises valent moins cher grâce aux machines. Et évidemment, on fait moins de marge sur un produit qui vaut moins cher. Le fabricant de chemises fait moins de marge sur une chemise qui vaut 50 balles que sur une chemise qui vaut 100 balles. C'est évident. Comment fait le fabricant de chemises une fois qu'il a mécanisé? Eh bien, il se rattrape sur la quantité. C'est-à-dire, il fabrique des chemises qui valent, sur lesquelles il fait moins de marge, mais il en fabrique beaucoup plus. Et il refait, et même, il consolide ses marges comme ça. On a donc quelque chose qui est structurel dans le capitalisme, c'est la tendance à produire toujours plus de marchandises. Pas par décision, pas par souverainisme. C'est que tout simplement, plus on mécanise, plus on met d'innovation, plus on met de technique, plus on fait baisser le coût des marchandises, la valeur des marchandises en termes exacts, plus on a besoin pour faire des marges de se rattraper sur la quantité. Et là, on entre dans un système sans fin. C'est-à-dire que tout le monde a bien compris que le premier qui fait une innovation importante, le premier va faire des marges importantes avant d'être rejoint par les petits copains. Et celui qui n'arrive pas à suivre le rythme de l'innovation, lui, va être dévoré par la concurrence. Donc, en fait, tout le monde innove en permanence. Et quand on regarde autour de nous, tout change tout le temps. Tout le monde innove en permanence pour ne pas disparaître. C'est pas une question de volonté, c'est pas une question de cupidité, c'est pas parce qu'on a des élites cupides, etc. C'est le mécanisme de marché qui veut ça. Et on se retrouve dans la situation suivante, qui est que on ne peut pas faire autrement que de mettre des machines et de l'innovation, sinon on est dévoré par la concurrence. Et quand on met des machines et de l'innovation, on a les marges qui baissent. On a le taux de profit qui, tendanciellement, baisse. Il faut des machines pour faire de l'argent, mais quand on met des machines, on a moins d'argent. Et pourtant, on ne peut pas faire sans machines. Ça, cette baisse tendancielle des taux de profit, c'est une mécanique implacable qui existe en Europe et dans tout l'Occident, depuis les années 70. Il n'y a qu'à comparer les taux de croissance de la France, de la Chine, des États-Unis des années 60 à aujourd'hui, le résultat est patent. Ce qui s'est passé, c'est juste une micro-parenthèse, dans les années 70-80, il est devenu évident que l'économie réelle ne produisait plus de marge, ou quasiment plus, d'où l'explosion de la bulle financière. Les capitalistes, les gens qui avaient de l'argent à investir, ne l'investissaient plus dans l'économie réelle, qui ne produisait plus assez de marge, mais l'investissait dans le capital fictif. D'où le côté bulle. Mais ça n'est qu'une bulle. Parce que l'action de la société Tricatel, on peut se l'échanger autant qu'on veut et faire des profits faramineux comme ça. Le jour où la société Tricatel, qui ne fait plus de profit ou quasiment plus, fait faillite, l'action Tricatel vaut zéro. C'est là qu'on peut voir, par exemple, d'autres données que le PIB. Le PIB, c'est la donnée toute richesse confondue, y compris la finance. La donnée centrale, c'est Jean Covici dont je ne partage pas les positions. C'est Jancovici qui la sort utilement. La donnée centrale pour l'économie réelle, ce sont les tonnes chargées par camion. C'est-à-dire tous les objets réels de l'économie réelle, n'importe lesquels, transitent à un moment ou un autre par un camion. Donc la prise directe sur l'économie réelle, c'est combien de tonnes chargées par camion. Bon, le tonnage chargé par camion baisse inévitablement, régulièrement, depuis les années 80 ou 90. C'est le déclin de l'économie réelle. C'est ça. Donc en fait, la morale de l'histoire, c'est que le capitalisme ou l'économie de marché, on appelle ça comme on veut. C'est un dispositif économique qui n'est pas naturel, qui a eu une naissance en Angleterre dans les années 1800, qui s'est immédiatement couplé à la technique et aux machines pour accroître ses profits. Ce processus s'est développé. Il atteint son hégémonie complète planétaire un peu après la Seconde Guerre mondiale, c'est la mondialisation. Il atteint son âge d'or dans les Trente Glorieuses. Et depuis, il est en déclin. Aujourd'hui, le déclin est masqué par le monde de la finance. Il est masqué par des réussites ponctuelles. Il y a toujours un petit malin qui innove plus que les autres et qui, lui, fait des marges monumentales. C'est valable à l'échelon de l'entreprise, c'est valable à l'échelon du pays. Mais globalement, la tendance croissante est à un déclin inexorable. Quelle est la première conséquence de ça? La première conséquence de ça, c'est que ça passe pas à la télé, ça, parce que ça vient de Marx. Mais c'est que tous nos dirigeants le savent. Et donc, comme il y a de moins en moins de profits, les gens deviennent de plus en plus tendus. On ne peut plus se permettre de ne pas faire du profit maximal en permanence. On peut plus se permettre de perdre 10 ou 20% sur une récolte de betteraves. On peut plus se permettre de perdre de l'hégémonie ou de perdre des stocks de pétrole qui restent. Donc on multiplie les conflits, on multiplie l'agressivité et on multiplie ça au plan international. On est dedans. Et on multiplie ça aussi au plan de l'entreprise. Et je vais arrêter là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, ça veut dire qu'on innove le plus possible à tout coup. Donc, on a de moins en moins d'employés. Donc, il y a de plus en plus de chômage. Forcément, le chômage croît. Il y a 20% de chômage en France. Hein. Le chômage, toutes catégories confondues. Le chômage croît. Et du coup, le pouvoir d'achat diminue. Donc, les entreprises vendent de moins en moins de marchandises alors qu'elles ont besoin d'en vendre de plus en plus. Et on a ce mécanisme terrible qui se met en place où les entreprises ont besoin de vendre de plus en plus pour maintenir leur taux de profit, mais qu'elles ne peuvent pas parce qu'on n'a plus d'argent et parce qu'une fois qu'on s'est acheté 2 voitures, on ne va pas en acheter 10.
Présentation limpide. Nicolas De Groot, merci. Tanguy De Vienne, vous allez avoir le temps de réfléchir à votre réponse puisque c'est l'heure du bobino. Donc merci une fois de plus à La Technique et à Radio Courtoisie de nous accueillir. N'oubliez pas d'aider notre chère radio.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et c'est reparti pour les pâturages du ciel, notre 20e émission consacrée à l'écologie, à la nature, au patrimoine, au monde agricole. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Nicolas De Groot, donc, qui est docteur en philosophie, auteur et puis bien entendu enseignant à Paris, voilà, et Tanguy De Vienne, architecte, grand défenseur du patrimoine et fin connaisseur des questions énergétiques, de transition énergétique.
Je m'y intéresse de près.
Alors, Nicolas De Groot venait d'exposer avec une grande clarté le déclin du système capitaliste, du système libéral. D'ailleurs, peut-être qu'il y aura un débat sur le choix des termes, mais en tout cas, cette baisse tendancielle du taux de profit envisagée déjà par Marx, cette tonne chargée par camion, c'est amusant comme indicateur, et effectivement je ne le connaissais pas, qui diminue aussi en Europe, et l'idée que plus l'innovation avancera, moins les profits seront importants, plus il faudra, si je comprends bien, se passer de la main-d'œuvre humaine qui est beaucoup trop chère pour garder un peu de taux de profit, et donc le capitalisme en déclin. Qu'est-ce que vous en pensez, Tanguy De Vienne ? Et par ailleurs, question à laquelle je vous laisse réfléchir tous les deux, est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour l'écologie ? Entre autres, parce qu'il y aurait bien sûr de multiples conséquences. Et peut-être aussi, est-ce que les limites les ressources naturelles n'est pas aussi un frein et un signe d'affaissement du capitalisme ? Tanguy De Vienne.
Écoutez, je vais essayer de structurer ma pensée parce que effectivement, après cette démonstration que je n'oserais contester, puisque effectivement, elle nous raconte l'histoire du marché et de l'époque moderne, j'ai envie de poser. Et là, je ne regrette pas d'avoir pris Ivan Illich et d'avoir révisé mes classiques, puisque il parle de seuil critique. Et j'ai l'impression que, à bien des égards, nous atteignons le seuil critique, je dirais même que globalement, le marché tel qu'il existe, avec justement ce paradigme sans cesse sur le profit, les marges, atteint son seuil critique, pas simplement d'ailleurs dans la production agricole ou dans le modèle agricole international, mais sur le marché en général. On parle aussi de monopole radical. Quand on parle par exemple d'énergie alternative, pour élargir un peu le débat, on se rend compte que sont effacées des solutions techniques, mais souvent d'ailleurs low-tech. Je pense par exemple au petit hydrolien qui fait partie de mes marottes, ou des puits canadiens. Je sais qu'à chaque fois je fais rigoler tout le monde avec ça, mais simplement parce que c'est local et que c'est déclinable et que ça répond à un besoin. Donc en fait, on sort finalement du marché. Et c'est là où, en fait, la logique de marché qui a été imposée, ou plutôt qui s'est imposée assez naturellement, aujourd'hui a tellement, contaminé nos esprits qu'on ne réfléchit plus autrement. Et c'est vrai que chez des personnes très modestes qui ont effectivement, qui sont peut-être les descendants de ceux dont vous vous moquiez, qui allaient à Pavanès-les-Flots et qui étaient dans un horizon consumériste qu'ils prenaient pour le bonheur absolu, sont aujourd'hui, en fait, s'interrogent. Et je le vois à travers des choses simples, comme par exemple l'automobile. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'adeptes, ou en tout cas de personnes qui dénoncent le fait d'acheter une dépendance et non pas d'acheter une autonomie. Pourtant, voilà, un symbole d'autonomie, un symbole de liberté, qu'est la voiture, mais bien sûr, on part vers l'horizon tel Lucky Luke sur un coucher de soleil. Eh bien en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on achète des ordinateurs roulants qui sont extrêmement complexes, qui à la limite rendent service pendant 4 ou 5 ans, mais n'ont absolument plus aucune possibilité d'être réparés dans le petit garage du coin. Et donc, on casse le lien déjà, le lien social à l'échelle du village. C'est là où je retombe un petit peu sur mon, comment dirais-je, mon premier thème. C'est qu'on se rend bien compte que l'individualisation aussi multiplie les besoins. C'est-à-dire qu'on va acheter chacun les mêmes outils, on va acheter chacun sa voiture, et au lieu de mutualiser, finalement, on individualise. Et j'ai l'impression qu'on arrive au bout de ce système et qu'il y a une conscience. Il y a une conscience sous-jacente. Moi, je l'ai vu pendant cette campagne électorale. Et il y a une adhésion, j'irais même au marché alternatif, qui ne nie pas d'ailleurs ce marché, parce que quand on parle de nourriture bio, de nourriture saine, de localisme, que ce soit sur le plan énergétique, que ce soit sur le plan de la production agricole, on sent bien qu'il y a une adhésion, mais une adhésion de clients, pas une adhésion simplement, je dirais, idéologique. Alors, c'est vrai que le marché ne va pas disparaître. C'est vrai que ce phénomène de seuil critique qui a été atteint globalement s'accompagne aussi d'un monopole radical dans plusieurs industries. Et là, je pense justement aux pesticides que l'on envisage aujourd'hui comme absolument indispensables, alors qu'on voit bien qu'il y a des combinaisons assez improbables, mais qui marchent très très bien, qui sont des combinaisons. Je prends souvent le vélo comme exemple de low-tech. On y est tellement habitué qu'on a fini par oublier que le vélo était une invention absolument géniale, puisqu'elle multipliait par 4 notre force métabolique simplement par un système low-tech. Et on lui greffe dessus une batterie. Ah, ben voilà de la haute technologie. Mais quand on greffe les deux, on se retrouve avec un nouveau moyen de transport qui est même, je trouve, sous-évalué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se dit, mais le vélo électrique, finalement, pourrait-il être comparé à la voiture électrique ? Oh bah oui, finalement. Alors que la voiture électrique est une absurdité, puisqu'il faut à peu près 40 kilowatts pour déplacer une personne, en moyenne, puisque, et je ne parle même pas du stockage, de la fabrication, donc consommation de terres rares, etc. Alors que sur un vélo, il faut 250 watts. Et 250 watts, qu'est-ce que c'est ? C'est la multiplication par 2 de notre force métabolique. C'est-à-dire une force métabolique qui est déjà multipliée par 4 par une technologie low-tech et qui, greffée ou en tout cas agrémentée ou améliorée par de la haute technologie, donc batterie, se retrouve à être multipliée par 8 voire 10. Donc je me dis, mais c'est là où se trouvent aussi les solutions. C'est-à-dire on répond à des besoins, on ne répond plus à un marché. Et c'est vrai que l'horizon du marché, dans même Capital de Marx, le titre dit tout. On se dit, mais l'horizon, finalement, c'est le marché, l'accumulation d'argent pour effectivement sous-traiter ou en tout cas acheter ce que l'on ne produit pas soi-même. Alors qu'il y a de plus en plus une appétence pour l'autonomie. Et je me dis que peut-être, non pas la solution avec un S majuscule se trouve là, mais en tout cas, on sent qu'il y a un humus de ce côté-là. Et un humus... J'aime le rappeler, le mot humus vient, c'est humble en fait, et humble vient du mot humus. Et je trouve que justement cette humilité de reconnaître les besoins premiers, c'est là où se trouve le discernement. Et je pense que c'est une chose qui devient de plus en plus partagée.
Alors Nicolas de Groot, est-ce qu'il existe un modèle alternatif, j'allais dire vélocipédique, qui puisse à la fois puiser dans la... avancer les technologies et également dans, j'allais dire, les forces naturelles. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est possible ? Parce qu'on a envie tout de même d'avoir un peu d'espérance. Merci Tanguy.
Ouais.
Et j'ajouterais une question aussi, Nicolas de Groot. Si le système d'économie de marché capitaliste s'effondre, qu'est-ce qui viendra ensuite et qu'est-ce qui est souhaitable ensuite ?
Alors, ça fait deux blocs de questions.
Oui.
sur le... Moi, j'aimerais bien avoir l'optimisme de Tanguy de Vienne et j'ai le même rêve que lui. C'est le même rêve.
Ça nous fait une chose en commun.
Mais c'est-à-dire qu'on a tous les deux en commun l'essentiel, c'est-à-dire le constat que le monde tel qu'on l'a fait ne va plus. Donc, on est d'accord sur l'essentiel. Ensuite, le premier problème, c'est, à mon avis, est-ce qu'on a une révolution des consciences morales ? Ça, malgré les contre-exemples locaux, j'y crois pas pour deux raisons, malheureusement. La première raison, c'est que la conscience des individus, elle ne sort pas de nulle part. Elle est formatée, créée, pas déterminée. Il faut garder la liberté, évidemment, et la responsabilité. Mais il y a un impact direct de la manière dont on pense, du monde dans lequel on vit, sur la manière dont on pense. C'est-à-dire qu'on ne pense pas aujourd'hui comme on pensait au Moyen-Âge. C'est-à-dire que les infrastructures réelles, techniques, économiques, impactent directement la manière de penser. Pour donner des exemples très simples, les jeunes, la génération Z, qui est née avec un portable à la main, elle ne pense pas comme nous. Elle n'a pas les mêmes rêves, elle n'a pas les mêmes appétences. Et j'ai bien l'impression que le monde de la société de marché et de la technique a créé de toutes pièces l'homme de la société de marché et de la technique, et que cet homme-là, il est très heureux dans son bain d'argent et de machines, et qu'il n'a pas du tout envie d'en sortir, et qu'il n'a pas envie du tout de faire le moindre effort, et que tout ce qu'il peut ajouter à son confort, ajouter à sa paresse, il va le faire, avec toutes les exceptions que vous voulez.
Ouais, c'est là où
avec
je vous rejoins
toutes
pas.
Les exceptions que vous voulez. Et je pense que bon, d'abord, il y a un peu les constats. Si ma mémoire est bonne, Kim Kardashian a 500 millions de followers sur son compte Instagram. Voilà. Et ces 500 millions-là, ils vont pas sortir du système technocapitaliste, malheureusement. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impact des conditions dans lesquelles les gens vivent. C'est de l'écologie de base. Hein. Les conditions, le milieu dans lequel on vit imprègne nécessairement les individus. Et nous vivons dans un système technocapitaliste qui imprègne nos mentalités. Les miennes, la mienne, moi aussi le premier, je vis dans ce système-là. C'est un premier élément où, malheureusement, je ne suis pas tout à fait convaincu par ça. C'est par exemple, on en parlait tout à l'heure, c'est exactement ce qu'a montré Debord. Debord a montré exactement dans la société du spectacle, que précisément la société de marché induit un spectateur, c'est-à-dire de quelqu'un de passif et de soumis. C'est la thèse centrale et, à mon avis, assez définitive de Debord. On pourrait repenser à d'autres analyses, celle de l'aliénation, par exemple, chez Heidegger ou chez Marx. Enfin, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel j'ai aussi un peu des difficultés sur le sursaut citoyen de certains, c'est la question des structures. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple du vélo, moi, je trouve ça très bien de faire du vélo et notamment de ne pas faire du vélo électrique. Mais on voit bien que c'est hors de portée des gens qui vivent à la campagne. C'est-à-dire quand on a 4 enfants et qu'on doit faire 25 km et que ça monte pour aller à l'Intermarché, on ne va pas le faire à vélo.
Puis-je répondre sur ce point, simplement ?
Bien sûr,
il n'y a pas un seul moyen de transport qui devienne exclusif. Et là, je pense qu'il ne faut pas justement se laisser contaminer par la tentation du monopole radical. C'est-à-dire que le monopole radical, c'est la solution qui remplace toutes les autres. Alors que ces solutions-là, en se greffant à d'autres existantes, ne les remplacent pas, mais les complètent. Et justement, quand je fais la promotion du vélo électrique, justement, c'est parce qu'il s'adresse à beaucoup plus de monde et qu'il ne remplace pas, surtout à la campagne, dans des zones périurbaines qui sont très habitées et où les distances sont finalement à portée de vélo électrique, et j'insiste sur le côté électrique, dans la mesure où les distances peuvent être de 15 ou 20 km. 15-20 km avec un vélo qui vous évite des embouteillages et surtout de faire ronronner un moteur avec 100 chevaux sous le capot mais qui ne sert strictement à rien à part vous mettre consciencieusement tous les matins dans les mêmes embouteillages, parce que le destin d'un mur c'est de s'écrouler, le destin d'une voiture c'est de finir dans les embouteillages, enfin je veux dire aujourd'hui c'est un constat. Eh bien je me dis que l'alternative vélo électrique, j'en finirai là-dessus, est beaucoup plus crédible qu'on ne le pense.
Nicolas de Groot.
Bon, sans entrer... Je partage assez peu, c'est-à-dire moi je suis normand et je vois mes parents par exemple et qui achètent leur pack d'eau, et ben ils vont pas aller parenthèse. Ce que je veux dire par là, indépendamment de la curette du vélo,
ils achètent leur pack d'eau. C'est déjà une aberration.
Oui. Non mais je suis d'accord, c'est une aberration, mais dans le monde réel les gens achètent des packs d'eau. Ouais. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est d'ailleurs, on pourrait parler d'Illich, je pense que c'est la limite de la pensée d'Illich. C'est que Illich ne voit pas les structures dans lesquelles nous sommes engagés. Et par exemple, la voiture a totalement reconfiguré le monde dans lequel nous vivons. totalement de A à Z. Le monde de la voiture n'est pas le même. Et maintenant, on est prisonnier de ça. Enfin, on peut laisser ça...
Ah, je ne pense pas que l'on en soit prisonnier, justement, parce que tout ce qui a été créé humainement peut être aussi défait. C'est-à-dire que la seule chose qui ne puisse pas être empêchée, c'est par exemple un terrain, une friche abandonnée, eh bien, la nature reprend ses droits. Ses droits, c'est absolu. Alors que la voiture n'a d'autorité que parce qu'on la fabrique, parce qu'on met de l'essence dedans, et que c'est devenu effectivement, je dirais, au-delà d'un moyen de transport... qui d'ailleurs a gommé tout le côté circulation, puisque là je reprends évidemment Ivan Illich qui effectivement pense circulation et ne pense pas uniquement mode de transport. Et je crois justement qu'aujourd'hui, nous sommes dans un phénomène d'habitude, de conformisme, qui effectivement a structuré notre pensée, mais qui en même temps fait naître chez chacun de nous cette conscience très bien définie par Sœur Emmanuel, qui disait... À vouloir jouir sans limite, on se heurte aux limites de la jouissance. Et je trouve que la société de consommation et la promesse, justement, d'une jouissance éternelle sans bornes, etc., en fait, conduit à une sorte de vide qui remet en cause, justement, toute cette économie de marché, cette économie d'illusion de l'abondance, aussi ce phénomène de société du spectacle qui nous rend, finalement, beaucoup... Enfin, on a besoin d'être acteur si on veut se sentir concerné. Quand je défendais l'esprit village, je me disais finalement il faut que on soit spectateur pour ne pas être, je dirais, kidnappé, mais il faut aussi que l'on soit dans une certaine mesure acteur pour se sentir concerné. Et c'est vrai que l'échelle du village, moi, m'intéresse énormément. La petite échelle m'intéresse énormément parce que j'y vois les conditions de l'autonomie et finalement l'autonomie. Est-ce que ça n'est pas la base sur laquelle tout le monde est serein ?
Nicolas Zeroult, ton action ?
Je pourrais répondre, parce que je trouve que l'appel à la responsabilité individuelle de Tanguy de Vienne, je le partage entièrement. Je ne suis pas aussi optimiste, précisément en raison des structures. Et je pense que là, on n'a peut-être pas temps d'entrer dans les détails, mais la limite d'Illich, dans la pensée d'Illich, c'est qu'il fonctionne avec une conception instrumentale de la technique. C'est-à-dire qu'il pense que la technique est un moyen et un instrument, ce qu'elle n'est pas, à mes yeux.
Serait-elle ?
Tous les penseurs majeurs de la technique, quels qu'ils soient, malgré toutes leurs différences, ont tous, c'est le point commun qu'ils ont tous. Qu'on prenne Heidegger, qu'on prenne Ellul, qu'on prenne Anders, qu'on prenne Viola, qu'on prenne Dulo et Murano, c'est leur point commun. La conception instrumentale de la technique, qui serait un moyen, dont dépendraient les usages, etc., n'est pas à la hauteur du phénomène. C'est une tentation naturelle, on pense que ce n'est qu'un moyen. Mais en fait, c'est plus compliqué.
Il voudrait en faire un moyen, et effectivement, il la dénonce comme étant une fin.
Non, c'est ni un moyen, ni une fin, c'est autre chose. Enfin là, c'est un débat sur la technique, mais...
Qui est tout de même très lié, parce que moi, si je peux envisager, là, je joue le rôle du technosolutionniste, c'est que justement, je me dis, ah oui, très bien, j'entends bien Tanguy de Vienne et Nicolas de Groot, le monde capitaliste est à bout de force, est-ce qu'il y a un espoir, je ne sais pas, mais moi, j'aurais tendance à vous dire, mais on dit ça depuis toujours, le capitalisme a vécu de crise en crise, c'est même structurel, c'est consubstantiel à sa nature même, et la technologie, à chaque fois, vient tout de même le sauver. C'est-à-dire, chaque fois qu'on...
Mais non, c'est l'inverse. La technologie, c'est le problème. C'est la technologie qui fait baisser ses profits qui condamne.
D'accord, mais dans ce cas, que se passera-t-il lorsque l'intelligence artificielle, la robotisation, système de drone, sera arrivé à un tel niveau d'efficacité que j'allais dire l'homme n'aura plus besoin de travailler puisque finalement, la majorité des besoins seront assouvis. C'est ça qu'on nous... des soins très peu coûteux, une agriculture quasiment gratuite. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis que c'est le tableau aujourd'hui vendu par...
C'est la promesse que l'on nous vend depuis le début de l'ère moderne, entre guillemets.
De fait, c'est tout de même largement arrivé. Si on pense confort matériel, si on pense accès simple aux ressources naturelles, à l'eau, à l'électricité, à la nourriture, au transport, aux vacances... Enfin, vous imaginez maintenant à l'évasion par le téléphone, par l'écran.
C'est un autre débat. Ce sont jamais des accès simples parce que ce sont toujours des accès payants. Et ce sont toujours des accès payants à des biens frelatés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons accès à l'eau, mais par rapport à un paysan du Moyen-Âge, on doit payer pour l'eau, lui c'était gratuit, et notre eau elle est polluée, ce qui n'était pas son cas. Notre accès à l'air est le même. Notre accès à l'air est payant, on prend du séjour à la montagne pour aller respirer de l'air frais. Donc l'accès au soleil est payant, ce sont les vacances au soleil. Il faut faire attention sur l'accès gratuit et sur la richesse déployée par le capitalisme. Ça me paraît être, et je m'inclurai dedans, le point de vue confortable du Parisien pour qui tout va bien.
Mais même pour le Parisien, tout ne va pas très bien.
Oui.
Parce que je vois bien ce que l'on nous vend aujourd'hui sur écran. On nous vend de la cohérence. Or, notre monde réel est de plus en plus incohérent. C'est la destruction des paysages. Mais aujourd'hui, est-ce que l'on envisage comme naturel ou comme exceptionnel, ou enfin, je dirais comme banal, d'évoluer dans un joli paysage? Non, ce qu'on nous vend en fait, même l'IA nous le vend aujourd'hui, ce sont des cartes postales absolument charmantes de villages ou de villes qui, à la fin du 19e, début 20e, semblaient animées par une vie à la fois paisible, alors que l'on n'imagine pas parfaite évidemment, mais en tout cas qui évoluait dans une sorte de quiétude et de décor qui avait une certaine cohérence. Aujourd'hui, on voit bien que même pour un Parisien, au-delà du périph', ça commence à être vraiment un décor pas très enviable.
J'en profite pour vous donner un chiffre hallucinant. En 30 ans, c'est peu 30 ans, les enfants d'aujourd'hui passent 10 fois moins de temps dehors qu'il y a 30 ans.
Mmh. C'est
fascinant. Hein. 40% des enfants aujourd'hui ne sortent pas le nez dehors de la semaine, en dehors du trajet pour l'école. Il y a plein de raisons d'ailleurs, la sécurité, les écrans bien sûr, les différents modes de vie, la crainte tout simplement, on n'a plus de confiance en l'autre. Mais ce que je veux dire, je me fais l'avocat du diable, mais qu'à moitié, vous me disiez au Moyen-Âge, on pouvait aller prendre l'eau du puits, mais l'eau du puits elle était parfois dangereuse au point qu'elle tuait. Mmh. L'espérance de vie, ça personne ne peut le nier, elle continue à augmenter. En France, ce n'est pas le cas aux États-Unis pour différentes raisons, mais elle continue malgré tout à augmenter. Les soins, la douleur, le rapport à la douleur, encore une fois, la qualité nutritionnelle. Nous, on pense pesticides parce que c'est un sujet qui nous agite, parce qu'on pense biodiversité, mais les conséquences sur la santé immédiate sont très infimes comparées au progrès actuel de la médecine. Qu'on n'ait plus besoin quasiment de travailler. Je veux dire, la baisse du temps de travail, c'est aussi parce que la question, c'est plutôt d'occuper les gens demain. Comment on va faire pour occuper les gens? C'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, on pourrait virer quasiment un tiers des salariés français. Je pense que l'activité du pays ne s'en ressentirait pas. Donc, la première chose, est-ce que vraiment le monde d'avant le capitalisme était meilleur? Bien sûr que moi, j'y suis sensible, mais c'est tout de même une question qu'on a un devoir de se poser. Et ensuite, si vraiment il y avait un effondrement des ressources et un effondrement du capitalisme par excès technologique et baisse tendancielle des taux de profit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de profit, eh bien, quel serait le monde d'après? Il me reste 7 minutes.
Alors, sur la technologie, est toujours la prémisse d'une simplification qui ne vient jamais, puisqu'on s'aperçoit que un monde qui devient de plus en plus complexe nécessite en fait... On prend de la technologie, je prenais l'exemple de l'automobile, on change une pièce, il faut la commander, avant il y avait 5000 pièces, maintenant il y en a 15 000, donc à chaque fois on doit spécifiquement changer une pièce qui vient évidemment de l'étranger dans un monde mondialisé, ce qui suppose des infrastructures beaucoup plus lourdes et puis des paquebots de plus en plus grands et des ports qui vont avec et du coup des relais bref, on n'en finit pas. L'autre plan, sur le...
Je tiens là-dessus, par exemple, aujourd'hui, non, c'est l'inverse, on change ta machine. On le change, demain on changera la bagnole, parce que c'est complètement standardisé, ça coûte rien.
Mais ça suppose derrière des infrastructures très lourdes pour justement changer cette machine. Rien ne vient par miracle.
Mais si
donc en fait, on en parlait au début de l'émission, c'est vrai qu'il y a eu un transfert de toute cette émission carbone parce que l'industrie se retrouve maintenant en Chine au lieu d'être en Europe. Bon, dont acte, mais effectivement, il faut toujours produire. Et il y a aussi un phénomène d'entraînement, c'est-à-dire que l'inertie d'une machine qui est optimisée pour produire finit par être l'esclave d'elle-même. C'est-à-dire qu'on investit dans une machine qui est faite pour produire et qui ne peut être rentable que si elle produit, et donc il faut trouver sur le marché le moyen de, que cet océan de marchandises puisse digérer toutes les marchandises que l'on produise. Et c'est là où je pense que l'autorité du flux a beaucoup plus d'autorité que celle de la limite. Je pense évidemment aux matières premières. L'autorité du flux, c'est ce qui consiste à prendre, à produire. Alors, on ne produit pas du pétrole, on l'extrait. On ne produit pas du cuivre, on l'extrait également. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, les moyens de production ou d'extraction sont devenus tellement puissants, tellement énormes, qu'ils ont une inertie de paquebot, exactement comme ça a été très bien illustré pendant le début du confinement, avec un pétrole qui était devenu négatif simplement parce que la machine à produire du pétrole ou à extraire du pétrole ne pouvait pas s'arrêter. Eh bien, je trouve que ce phénomène d'entraînement nous conduit effectivement vers une rupture qui, à mon avis, arrivera par degrés. Et le premier degré, c'est peut-être les conflits que l'on connaît aujourd'hui. On verra si cette chute ressemblera à Mad Max ou si elle ressemblera au localisme.
Capitalisme de la finitude. Nicolas de Groot.
Une fois qu'il est acté que le capitalisme est en train de s'arrêter, il est en train de mourir, effectivement, la question, qu'est-ce qui vient après? Et je pense qu'il y a des études très intéressantes là-dessus qui viennent de l'Encyclopédie des Nuisances, notamment le livre célèbre de Semprin et de Riesel qui s'appelle « L'administration du désastre ». Ça consiste à dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le capitalisme ne va pas s'effondrer un beau matin et ça sera Mad Max. Le capitalisme est déjà en train de s'effondrer, c'est-à-dire les taux de profit sont déjà en train de baisser. Tous ceux à notre âge, on voit bien que Paris a beaucoup changé, que les routes de France ne sont plus entretenues, etc. Qu'est-ce que c'est que l'administration du désastre? Ce sont les restes du capitalisme, les beaux restes, et notamment de la technostructure, qui s'accrochent mordicus au dernier relief, au dernier profit, aux dernières matières premières, aux dernières ressources. Et là-dedans, on a les derniers dirigeants, les derniers entrepreneurs, le reste de la bourgeoisie, et qui instaure pour ce faire un État de plus en plus autoritaire, on est en plein dedans, et qui instaure une discrimination croissante entre les hommes qui servent encore à quelque chose et les hommes qui sont en trop, qui ne servent plus ni à produire ni à consommer. Le capitalisme finissant ne va pas terminer dans l'exploitation que disaient les marxistes, il va finir dans la ségrégation. Toi tu sers à quelque chose, toi tu sers à rien. On en avait déjà parlé ensemble, François, mais je crois que la meilleure image de l'administration du désastre, c'est Sainte-Soline. Les méga bassines de Sainte-Soline, on est arrivé au résultat suivant. Il n'y a plus assez d'eau pour tout le monde. Donc, on envoie des policiers qui sont à deux doigts d'être militarisés. L'État décide, toi t'en auras pas. Et ceux qui ne sont pas contents, c'est le LBD dans l'œil. Et on a exactement ça. Je pense que les guerres au Moyen-Orient participent de la même logique. C'est-à-dire, du pétrole bon marché, il n'y en a plus pour tout le monde. Donc on va le chercher. Si les budgets des armées françaises explosent, et le budget de la défense européenne explose, c'est parce qu'en Europe, nous n'avons pas de ressources premières. Le pétrole de la mer du Nord est quasiment terminé. Il ne fournit plus que, je crois, 10 ou 12% de nos ressources. Construire des centrales nucléaires, une fois qu'on a arrêté les grands discours, ça prend des décennies, concrètement. Et donc, le pétrole, le gaz, le fer, le cuivre, l'or, les terres rares, il faut aller les chercher. Et c'est ça l'administration du désastre. C'est l'entrée dans une société de plus en plus pauvre alors qu'elle est une société d'abondante, donc multiconflictuelle et ultra-autoritaire. Pour prendre des exemples de films, et j'arrêterai avec ça, je ne pense pas que notre futur, dans les décennies qui viennent, ce soit Mad Max, que ce soit la route. Non. Je pense que c'est quelque chose entre Brésil et entre 84.
C'est joyeux. Je pensais à la Chine, une voie possible, puisque la Chine administre très bien le désastre. En tout cas, elle prépare les choses, elle se protège justement vis-à-vis des questions de l'approvisionnement en matières premières, puisqu'elle cherche tant que possible à être le plus autonome, en tout cas la moins dépendante, au moins de l'industrie pétrolière. Est-ce que c'est pas cette voie de...
La Chine n'est pas encore en récession.
Oui, c'est vrai.
Quand la récession va arriver, et l'IA va certainement accélérer ça. Pour l'IA, je me permets juste une parenthèse, il y a une étude qui est sortie le 1er avril, c'était pas une blague. 1er avril, une étude tout à fait officielle de l'organisme français de je sais plus quoi, qui estime pour les 2 à 5 ans qui viennent, 5 millions de chômeurs liés à l'IA. D'accord. Pour mémoire, il y a 2,5 millions de chômeurs officiels en France. C'est donc plus 200% du chômage dans les 2 à 5 ans qui viennent.
C'est crédible.
Sympathique. Tant qu'ils deviennent, c'est vous qui aurez le mot de la fin.
Ouais. Non mais dans l'administration du désastre, effectivement, on voit une soustraction par degré Et j'ai l'impression qu'une des soustractions qui aura lieu, c'est l'effet rebond. C'est-à-dire qu'on parle évidemment des services efficaces, on parlait des transports, et on se dit, mais les transports, naturellement, si j'ai un moyen plus rapide, je vais mettre moins de temps pour la même distance. Et on s'aperçoit qu'en réalité, dans le monde réel, ce n'est pas le temps de trajet qui est raccourci, mais le trajet qui est rallongé. Et je me dis que quand on voit la France des années 70 et la façon dont on vivait dans une agglomération, ou en tout cas dans une agglomération, par exemple l'agglomération parisienne, on s'aperçoit que les déplacements ont été multipliés mais par 10. Et donc je pense que cet effet rebond va être soustrait, exactement comme est soustrait aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une alternative à la complexité vers quelque chose de plus maîtrisable.
Merci Tanguy de Vienne, merci Nicolas de Groot. Eh bien, la question est très large, je vous convierai à nouveau dans cette émission. Voilà, je laisse nos auditeurs de Radio Courtoisie sur cette question de l'administration du désastre. Et je vous souhaite un excellent et beau soir d'avril. Très bonne soirée à tous.
Vous venez d'entendre Les Pâturages du Ciel, dirigé par François Devoyer, émission préenregistrée le 15 avril 2026 et diffusée pour la première fois samedi 18 avril 2026 de 19h30 à 21h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix francs de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.